Dans le drame qui a conduit à la mort de la petite Liana, la justice n'a pas su protéger. Dans l'affaire Le Pen, une responsable politique doublement condamnée pour détournement de fonds publics et pourtant candidat à l'élection présidentielle. Et dans les deux cas, la justice est au cœur de toutes les critiques et de tous les questionnements. Les réponses, dans quelques instants, avec un invité exceptionnel, vous écoutez et vous regardez le 117e épisode de Quid Juris. Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. Vous le savez, Quid Juris, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit. Un podcast préparé avec Elsa France, en partenariat avec BFM. Et aujourd'hui, c'est un haut magistrat qui va nous aider à décrypter l'actualité judiciaire, l'actualité tout court. Bonjour Jean-Baptiste Parlos.
Bonjour.
Vous êtes magistrat de l'ordre judiciaire depuis janvier 2023. Vous êtes premier président de la Cour d'appel de Rennes. Auparavant, vous aviez été premier président de la Cour d'appel de Reims, président de la Cour de justice de la République et encore avant, conseiller à la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Je crois même que vous avez été juge d'instruction et notamment chargé des mineurs. Je ne me trompe pas.
Pas du tout.
Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de Quid Juris. On a beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui, tant la justice est au cœur de l'actualité, j'allais dire au cœur de toutes les critiques. Et j'aimerais qu'ensemble, pendant cette demi-heure qu'on va passer ensemble, on essaye de remettre, si j'ose dire, le palais de justice au cœur du village. Et d'abord, avant de parler de toutes les affaires qui ont défrayé la chronique, je voudrais qu'on parle d'un sujet. Cette histoire de ces deux jeunes mineurs impliqués dans l'assassinat de Shemseddine, 15 ans, roué de coups, laissé pour mort dans un hall d'immeuble à Viry-Châtillon, c'était en avril 2024. Et il se trouve qu'ils ont été remis tous les deux en liberté, les deux auteurs de cet assassinat, à cause d'un vide juridique. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition qui concernait la détention des mineurs, et le Conseil constitutionnel avait donné un an à la chancellerie et au Parlement pour remplir ce vide juridique et proposer un texte conforme. Et pendant un an, il n'y a rien eu d'écrit et du coup, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris les a relâchés. Est-ce que ça pourrait arriver dans une cour d'appel comme celle de Rennes que vous présidez ?
Alors, je vais bien sûr répondre à votre question, mais je voudrais d'abord vous dire que la justice, ce n'est pas uniquement la justice pénale. En fait, la justice pénale habite tout l'espace médiatique, bien évidemment. Mais la justice, c'est aussi la justice civile, des différends entre les particuliers, des différends entre les commerçants, des questions prud'homales, sociales. Sachez que deux tiers des affaires sont rendues, deux tiers des jugements, des arrêts sont rendus en matière civile. 1 600 000 décisions sont rendues à peu près chaque année en matière civile, la matière pénale représentant à peu près 30% de l'ensemble des décisions. Voilà, de l'ensemble des décisions rendues par la justice. Donc certes, la justice est dans la tempête, mais c'est surtout la justice pénale qui l'est, et de très nombreux magistrats travaillent aussi à d'autres domaines que la justice pénale, le font bien, rendent des décisions qui sont appréciées, comprises, exécutées. Donc de tout cela, on ne parle pas. Mais ça, je crois qu'il faut quand même, si vous voulez remettre la justice au milieu du village, il faut mettre le palais de justice bien décrit tel qu'il est dans notre société démocratique.
Alors vous avez raison, mais vous avez raison de dire aussi que ce qui frappe l'opinion, notamment parce que ce sont les affaires que relaient les médias, il faut le dire, ce sont effectivement, vous avez raison, ces affaires pénales. Et là, quand vous avez vu deux auteurs mineurs au moment des faits, reconnus, présumés, mais reconnus auteurs des faits, qui sont remis en liberté à cause d'un vide juridique, vous comprenez que ça accroît, ça renforce la défiance que la population, que les Français peuvent avoir dans notre système judiciaire, même si le juge, pour le coup, n'y est pour rien.
Alors, je vais bien sûr répondre à la question que vous m'avez posée d'entrée, mais il me paraissait important de vous resituer l'ensemble de l'institution judiciaire dans son action. Bon. Alors, bien évidemment, l'affaire dont vous parlez me paraît assez emblématique, parce que j'ai lu à propos de cette affaire que c'était un naufrage judiciaire. Ça n'a rien d'un naufrage judiciaire. Nous avons deux personnes. Je rappelle qu'elles sont présumées innocentes tant qu'elles ne sont pas définitivement condamnées. C'est une présomption qui s'applique à tous.
Mais la présomption d'innocence ne signifie pas qu'ils ne sont pas l'auteur des faits.
à la présomption d'innocence signifie qu'on ne peut pas les présenter comme coupables.
Exactement.
Voilà. Donc, ces deux personnes ont été remises en liberté parce que la mesure de sûreté de détention provisoire n'a pas pu être prolongée jusqu'à la comparution devant la cour d'assises.
Il n'y a plus de base légale.
Semble-t-il, d'après ce que j'ai compris, il faut toujours rester modeste dans les analyses juridiques que l'on fait, il n'y a plus de base légale. Le Conseil constitutionnel les ayant censuré une partie de la loi de procédure pénale, cette loi n'a pas été remplacée par des dispositions législatives conformes aux exigences posées par le Conseil constitutionnel. Il y a donc là un manque.
Donc on est bien d'accord, pardon, avant d'aller plus loin, on est bien d'accord, c'est pas, vous l'avez dit, un naufrage judiciaire, c'est pas la faute du juge, c'est ou la faute de la chancellerie, ou la faute conjointe du législateur, mais en l'occurrence, le juge se contente d'appliquer la loi.
Oui, moi, j'emploie avec beaucoup de parcimonie le mot « faute ». Voilà. Donc, ce que je constate...
La responsabilité, si vous préférez.
La responsabilité aussi, c'est un mot grave. Surtout quand on l'a dit pour certains magistrats, quand on a dit qu'ils étaient responsables avant même qu'il y ait une enquête administrative, qui n'est d'ailleurs pas terminée.
On va en parler.
Donc, si vous voulez, ce sont des mots importants. Les juristes sont attachés aux mots parce qu'ils sont une valeur. Voilà. Donc, je pense qu'il y a là un manque, que ce manque n'a pas été comblé. Pourquoi ? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est pas la faute des juges. Donc, c'est pas la peine de dire que c'est un naufrage judiciaire. Ce n'en est pas un.
J'ajoute quand même qu'il y a peut-être une faute de la justice, et là j'emploie à dessein le mot faute, c'est qu'au moment où la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris remet en liberté, faute de base légale, ces deux personnes, à aucun moment la justice ne prévient la famille de la victime. Et là, peut-être que la justice a des progrès à faire.
Là, il y a incontestable.
La famille a appris la remise en liberté de ces deux individus sur les réseaux sociaux.
Il y a incontestablement, si c'est la réalité, je ne doute pas que vous me dites la réalité, mais je n'en ai pas été le témoin direct. Si c'est la réalité, il y a incontestablement, là aussi, une grave difficulté qui ne devrait plus exister. Car dans toutes les juridictions, nous avons mis en place, alors notamment... pour les violences intrafamiliales, on pourra en reparler, des alertes via des associations de victimes pour qu'on prévienne les personnes victimes, parties civiles ou qui se déclarent victimes, de la remise en liberté de personnes ou d'une déclaration de non-culpabilité d'une personne dont ils sont accusés à un moment ou à un autre de la procédure.
Donc la justice aussi peut faire des progrès pour renforcer la confiance dans l'institution et le lien tout simplement avec les justiciables.
Oui, tout à fait. Alors la justice doit faire des progrès. Elle en a fait beaucoup. Elle a fait beaucoup avec très peu. Il y a 40 ans d'abandon budgétaire derrière tout cela. Ce ne sont pas des termes qui sont les miens, ce sont les termes d'un précédent garde des Sceaux. Voilà. Donc elle progresse, elle doit continuer à progresser. Nous devons absolument être vigilants sur un certain nombre de questions, comme par exemple celle que vous venez d'expliquer. Il est absolument anormal qu'on n'ait pas informé les victimes de cette décision au moment où elle a été prise. Donc nous devons effectivement nous améliorer, mais je pense que la justice, d'une certaine manière, continue de faire ce qu'elle peut pour améliorer ses process.
Alors là, on parle de la libération de deux mineurs, mais la question se pose aussi pour les majeurs, et je dois la vérité de dire que vous avez été un des premiers à alerter sur le risque d'engorgement des cours d'assises, des cours criminelles départementales, et du risque qu'il y avait, faute de pouvoir audiencer dans les délais raisonnables des procès qui concernent des crimes extrêmement graves, il y avait un risque de devoir remettre en liberté des auteurs de faits très graves, je ne me trompe pas.
Non, j'ai en audience publique en septembre 2024, puis par la voix de la presse, notamment du quotidien Ouest-France, alerté sur le fait que compte tenu de l'engorgement des cours d'assises, des cours criminelles, nous allions être dans la difficulté majeure de ne pouvoir juger des personnes dans le délai de la détention provisoire.
Et là, donc, aujourd'hui, pardonnez-moi, à Rennes, par exemple, il y a le risque que... à court terme, à moyen terme, des auteurs de faits très graves soient remis en liberté, faute de pouvoir les juger ?
Il y a eu le risque.
Il n'y a plus ce risque-là ?
Ce risque, maintenant, a considérablement diminué, parce qu'on a pris conscience en janvier 2026, à la suite de la libération de deux personnes ou trois personnes, je crois, dans la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui se trouvaient dans cette situation de ne pouvoir être jugées dans les délais de la détention, qu'il fallait faire un effort pour pouvoir juger le plus rapidement les affaires. Bon, nous avons eu des moyens supplémentaires pour pouvoir le faire. Nous sommes engagés sur un plan, un effort conséquent pour juger plus d'affaires criminelles en moins de temps, c'est qu'on augmente le nombre de sessions, donc on augmente la charge des magistrats. Mais évidemment, on ne peut pas faire des efforts dans tous les domaines, parce que nos moyens sont limités. Donc il faut faire des efforts sur des axes prioritaires. Celui-là en est un, et à la Cour d'appel de Lorraine, cet effort est fait. Des sessions supplémentaires, c'est-à-dire des affaires supplémentaires vont être jugées, afin d'éviter que toute personne puisse être mise en liberté parce que, et pour l'unique raison, qu'elle n'aura pu être jugée dans le délai de la détention.
Pour comprendre les difficultés de la justice, j'ai commencé en introduction par parler de l'affaire Liana, qui a choqué évidemment l'opinion publique. Il se trouve qu'il y a une déclaration conjointe de Christophe Soulard, le premier président de la Cour de cassation, et Rémi Hetz, le procureur général près la Cour de cassation. Les mots qu'ils ont employés sont particulièrement forts. Ils écrivent « L'État, la justice n'ont pas su protéger » et ils ajoutent même « Au-delà des actes de tel ou tel, c'est toute une chaîne de protection qui a cédé. » Donc, est-ce qu'on est, dans cette affaire, face à une succession d'erreurs ou de fautes, je reprends le mot faute, individuelles, ou est-ce qu'on est, au contraire, devant, une sorte de faille systémique qui fait que la justice n'est plus en mesure de traiter correctement ses affaires ? Et encore une fois, on parle du pénal.
Écoutez, si j'ai bien lu certains de vos confrères, récemment, notamment dans le Figaro, on se rend compte que la recension des affaires en matière de violences sexuelles contre les mineurs, notamment de violences criminelles, donne des résultats qui nous laissent perplexes. C'est-à-dire qu'on est en dizaines, voire en centaines de milliers d'affaires qui attendent.
Je rappelle qu'il y a 160 000 enfants victimes par an.
Voilà.
Donc on est devant une forme de délinquance ou de criminalité de masse.
Voilà. Et donc devant un phénomène qui dépasse par son ampleur la seule action de la justice. Et quand les chefs de la Cour de cassation, le premier président et le procureur général après cette cour disent, c'est toute une chaîne de protection qui a cédé, c'est que effectivement, nous nous inscrivons, nous, justice, mais pas uniquement nous, dans une chaîne de protection qui doit aller, si je puis dire, de la petite enfance, de l'environnement scolaire, familial, puis passer peut-être par la justice pour protéger les plus faibles d'entre nous que sont les mineurs.
Est-ce que pour autant, il y a pu y avoir, dans cette affaire, des fautes, des erreurs individuelles, des oublis, des manquements? Là, j'ai cité un exemple dans le cas précédent où la justice ne prévient pas de la remise en liberté de deux auteurs graves. Est-ce que, quels que soient les problèmes de moyens, et sans doute qu'ils existent, il peut y avoir dans cette affaire des erreurs individuelles, comme dans toute profession, j'allais dire?
Oui, le chef de la Cour de cassation, le premier président et le procureur général n'ont pas dit autre chose. Voilà, ils ont dit, il y a sans doute des circonstances à élucider sur le traitement de cette affaire. D'ailleurs, le pré-rapport est assez clair. Il est extrêmement posé et équilibré dans les constatations qu'il fait. On a des circonstances qui, semble-t-il, sont établies. Donc chacun peut lire et chacun peut savoir et faire sa propre conviction sur la succession des circonstances qui ont entraîné cette catastrophe qui nous a vraiment bouleversé.
Pardonnez-moi, je vais être un peu taquin avec vous, mais c'est le jeu qui veut ça. Vous parlez évidemment des pré-rapports de l'Inspection Générale de la Justice, et parallèlement d'ailleurs, il y a une enquête administrative confiée à l'IGPN, pour la gendarmerie. Mais j'ai envie de vous répondre, des enquêtes de ce type-là, des rapports de ce type-là, il y en a eu plein avant. Je pense par exemple au rapport qui avait eu lieu après la mort du jeune Elias. Je l'ai lu, ce rapport, il faisait 40 pages, il était question d'un effet mère suivie de l'assistance éducative, d'une sérialité de faits délictueux sanctionnés par très peu de procédures, d'une dizaine de faits délictueux avant qu'ait lieu le premier déferrement. La liste était longue comme le bras et à la fin, il y avait d'ailleurs des préconisations. C'était il y a plus de 18 mois. Depuis ce rapport, rien n'a changé.
Alors, je ne peux pas dire que rien n'a changé parce qu'il faudrait faire une étude extrêmement précise de ce qui se passe dans les juridictions, notamment dans les services des mineurs. Bon, mais ce que vous me dites là rejoint la constatation qu'on a faite dans l'affaire Liana, c'est-à-dire cette absence de capacité de l'ensemble de la chaîne de protection à faire face à ses responsabilités. là on peut parler de responsabilité institutionnelle, ce n'est pas différent dans l'affaire Lelnat que dans ce qui se passait il y a à peu près 18 mois. Alors, on n'a pas vraiment progressé, ça je pense que vous avez raison de le dire, mais je pense aussi qu'il faut avoir une vue à peu près globale de la justice, si vous voulez. On ne peut pas aborder la question de la justice par un angle particulier.
Ou vous voulez dire par une affaire aussi dramatique soit-elle.
Oui, par une affaire aussi dramatique soit-elle, ou par un domaine, la responsabilité des mineurs. Bon, voilà, la situation des mineurs. Je pense qu'il faut avoir une approche qu'avait préconisé Jean-Marc Sauvé dans son rapport « Rendre justice aux citoyens », une approche systémique de l'institution judiciaire. J'avais envie de vous poser une question. J'ai envie de vous dire, mais savez-vous depuis quand, depuis quelle date remonte la grande réforme, la dernière grande réforme de la justice ?
Je vous laisse répondre.
Ben voilà. Bon, mais j'aurais aimé que vous puissiez répondre. Parce qu'en fait, elle date de 1958. On a tout refait. On a refait la carte des juridictions. On a refait la procédure. On a refait le statut. On a créé cette école qu'on veut maintenant absolument supprimer.
Attendez, je vous interromps, mais vous êtes en train de suggérer qu'en fait, il faudrait sans doute entrevoir ou préparer une très grande réforme de notre système judiciaire pour prendre en compte tous ces problèmes, toutes ces failles, toutes ces défaillances, au-delà de la seule question des moyens.
Exactement. Je me demande ce qu'on attend. Mais je me demande ce qu'on attend. Ça fait 40 ans que je me dévoue au service public de la justice et à mes concitoyens à qui je dois rendre justice. Et je continue, malgré mes activités budgétaires, administratives, informatiques, administratives, à exercer des fonctions juridictionnelles. Je me demande ce qu'on attend pour une grande réforme de la justice. On va entrer dans une période électorale très importante pour notre pays.
Ça pourrait être un sujet de la campagne présidentielle ?
Ben, ça devrait. Et je pense qu'une bonne candidate ou un bon candidat devrait avoir dans ses cartons pour les tout premiers jours de l'exercice du pouvoir les propositions juridiques à faire adopter par un Parlement pour réformer l'ensemble de l'institution et lui redonner la vigueur qu'elle a perdue.
Est-ce que vous diriez, ça c'est un commentaire personnel, que ce serait une bonne alternative à la succession de textes législatifs qui répondent à chaque fait divers, à chaque drame, de façon régulière ?
Oui, je pense que ce serait une façon adulte pour une société démocratique de répondre à la question prioritaire pour moi de rendre la justice au bénéfice des citoyens.
Il y a un autre sujet qui a été évoqué à la faveur de cette affaire Liana. Certains responsables politiques ont appelé, je cite, à une reprise en main de la discipline des magistrats. Certains ont même laissé entendre que les juges, au fond, étaient assez irresponsables, qu'ils étaient rarement sanctionnés, comme si, au fond, la corporation se protégeait elle-même. C'est juste ou c'est injuste ?
Quelques semaines après, on a eu des compliments, hein, sur une affaire qui a défrayé la chronique. On a dit que la justice avait été extrêmement intelligente. Bon, donc tout ça est un peu farfelu, c'est de la surenchère électorale. Je pense qu'il faut avoir une autre vision. Ça manque, franchement, je vais vous dire, ça manque de vision pour la justice. Ce sont des mesurettes. Alors s'il s'agit de faire baisser la tête aux magistrats et d'exercer une vindicte à leur encontre, on peut continuer la liste. Bon, c'est pas là, si je puis dire, la vision d'une femme ou d'un homme d'État.
Alors, il y a peut-être, et ça pourrait faire partie d'une réforme de la justice, comme vous dites, tout le monde sait que le Conseil supérieur de la magistrature, quand il est dans sa formation disciplinaire, il a le dernier mot quand il sanctionne un magistrat du siège. Mais quand c'est un magistrat du parquet, il émet un avis, mais c'est le garde des Sceaux qui décide. Or, il se trouve qu'il y a près d'une dizaine d'années, le Sénat et l'Assemblée s'étaient mis d'accord pour modifier la Constitution et donner ce pouvoir, cette indépendance au Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que ça fait partie des réformes que vous, premier président de la Cour d'appel de Rennes, vous défendez ?
Alors moi, je ne défends pas plus une réforme qu'une autre. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est plutôt d'appeler à une réflexion et à une action sur la justice, une action d'ampleur. Mais je vais vous dire deux choses là-dessus. Bon, les magistrats ne sont pas des irresponsables. Ils sont responsables civilement, ils sont responsables pénalement, ils sont responsables disciplinairement. Il y a de nombreuses décisions disciplinaires qui sont prises par le Conseil supérieur de la magistrature chaque année.
Bon. Donc, ce qui est au centre du débat politique est en fait un non-sujet. Les juges sont sanctionnés quand c'est nécessaire.
Exactement. Alors, après, qu'on puisse améliorer le système, notamment par ce que vous suggérez, pourquoi pas. Mais je crois que le fond de la question, c'est de dire que les magistrats sont des magistrats qui sont responsables. C'est-à-dire que, proportionnellement, si on compare à d'autres corps de l'administration, ils sont peut-être plus responsables que d'autres. Voilà. Donc, si on fait la proportion des sanctions, des procédures disciplinaires par rapport au nombre de magistrats que la...
Et contrairement à ce qui a été dit par certains, il y a déjà des non-magistrats qui jugent les magistrats. Ce ne sont pas les magistrats seuls qui décident des sanctions contre les magistrats.
Ils sont même en majorité.
Absolument. Je voudrais revenir un instant à cette déclaration que j'évoquais de Rémy Heitz et Christophe Soulard. Dans le même texte, ils mettent en garde contre ce qu'ils appellent la mécanique du bouc émissaire. C'est-à-dire le fait, disent-ils, de jeter l'opprobre sur un petit nombre, de magistrats en l'occurrence, pour s'épargner d'interroger une responsabilité collective. Si je vous comprends bien, c'est un peu votre sentiment aussi.
Oui, je me demande si ça mérite un commentaire. C'est assez clair. Voilà, ça qualifie une séquence qui s'est passée il n'y a pas si longtemps.
Je vais préciser ma question.
Je souscris à ces propos.
Je vais préciser ma question. Quand on décide de sanctionner deux gendarmes ou la substitut du procureur d'Auch, à laquelle on a retiré d'ores et déjà son habilitation à mener des enquêtes et à traiter des dossiers contre les mineurs, est-ce que c'est une façon de mener la politique du bouc émissaire ?
Alors, la question n'est pas si simple. Parce qu'en réalité, il ne faut pas, derrière cette affirmation, que disparaisse complètement la responsabilité personnelle et disciplinaire d'un fonctionnaire, d'un militaire, d'un magistrat. Bon, donc, il faut que cette responsabilité existe. Et d'ailleurs, c'est ce que disent et le premier président de la Cour de cassation et le procureur général. Et tous les magistrats sont d'accord là-dessus. Bon, mais si vous voulez réduire l'explication de la situation que nous connaissons aujourd'hui à des faillites individuelles, ça, c'est la théorie, c'est l'application de la théorie du bouc émissaire.
Alors, j'entends ce que vous dites, et pendant que vous tenez ce discours-là, et vous n'êtes vraiment pas le seul à tenir ce discours-là, notamment dans la magistrature, on a le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit « je veux entendre aucun argument de moyen dans cette affaire ». On a Gérald Darmanin qui dit « dans cette affaire précise, c'est pas une question de moyens ». Il y a quand même un problème de moyens quand je vois que on a 3 procureurs pour 100 000 habitants dans ce pays, quand c'est 12 en moyenne dans l'Union européenne. Pardon, il y a un problème de moyens. On peut pointer les responsabilités individuelles, mais il y a un problème systémique pour le coup.
Monsieur Neumann, les faits sont têtus. De toute façon, on voudrait les éluder, qu'ils réapparaîtront nécessairement. Je pense que si vous posiez la question au président de la République dans ce lieu ou au garde des Sceaux sur la question des moyens, la réponse ne serait pas exactement la même que ce qui a été dit au départ. Voilà, je pense que je me fais un peu leur avocat. Même si je suis
vous voulez dire qu'ils
bon
connaissent
avocat.
Le problème,
non,
mais ils
je
ne
pense,
peuvent pas
je,
le dire.
Je pense qu'il y a eu une réaction sous le coup de l'émotion et on a été tous bouleversés par cette affaire. Les magistrats sont aussi des êtres humains, voyez, des femmes, des hommes qui ont des enfants. Ils imaginent, ils comprennent la souffrance de la famille de cette petite Liana et la souffrance de toutes les victimes qui sont confrontées à ces faits extrêmement graves et d'une violence extrême. Bon, maintenant, je crois qu'il importe à ce que tous les responsables, et particulièrement les responsables de l'autorité judiciaire, et quand je dis ça, je dis que le garde des Sceaux, il est dans l'État, mais ce n'est pas l'autorité judiciaire. Voilà, l'autorité judiciaire, ce sont les magistrats qui la représentent, gardent leur calme et leur sérénité. Et ce que je dis aux magistrats, j'en ai quand même un certain nombre dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes, plus de magistrats.
C'est un des plus gros ressorts de France.
C'est le premier ressort en territoire et le deuxième ressort en population. Ce que je leur dis, ils sont plusieurs centaines, je leur dis, écoutez, les pouvoirs dont vous disposez, ils n'ont de valeur que par la mesure avec laquelle vous les exercez. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important, et donc nous devons garder le sens de la mesure, même quand on est sous le coup de quelque chose d'aussi bouleversant que ce que nous avons vécu.
Je rappelle, puisque vous dites que les faits sont têtus, je rappelle un chiffre, quand on prélève dans ce pays, en France, 1000 euros d'impôts et de taxes, il n'y a que 3,70 euros qui vont à la justice. Ça dit aussi ce que l'on veut faire de la justice. Et moi, j'ai regardé, et vous le savez mieux que moi, il y a 3 millions de plaintes en souffrance dans les commissariats, où les parquets sont submergés, les tribunaux engorgés. On a parlé de cours d'assises embolisées. Tout le monde sait qu'on manque cruellement d'officiers de police judiciaire. Quand vous avez entendu Gérald Darmanin dire qu'il faut revoir 70 000 dossiers sur des atteintes aux mineurs, mais en soi, c'est un aveu que le système est sous l'eau, embolisé.
Alors, le système est submergé, ça c'est vrai, mais il n'y a pas que dans ce domaine. C'est pour ça que je vous réponds par une réponse plus large qu'il faut apporter aux problèmes posés par la justice. Si on est dans le domaine de la protection, moi je voudrais vous parler des personnes âgées qui sont sous mesure de protection judiciaire. Le vieillissement de la population est quelque chose de parfaitement connu, mais on n'en a pas pris la mesure au plan des moyens à apporter pour répondre...
En matière judiciaire.
En matière judiciaire, à la protection juridique des personnes âgées. Bon. Donc vous voyez, c'est pas uniquement dans le domaine pénal et de la protection des mineurs qui sont agressés sexuellement que l'institution est submergée. Et c'est pour ça que je pense que... Il faut absolument qu'on réexamine l'ensemble de l'institution et que peut-être on change notre vision. Vous voyez, je suis étonné de la façon dont on regarde de manière toujours unilatérale les choses.
Alors, si vous me permettez, j'ai eu cette conversation avec un magistrat il y a quelques jours qui faisait le parallèle entre la justice et l'hôpital. Et il me disait, à l'hôpital, faute de moyens, bah, aux urgences, on ne peut pas soigner tout le monde, donc on trie. On trie et du coup, on ne soigne pas bien. Et j'ai l'impression, en voyant tous ces chiffres, qu'au fond, la justice, c'est un peu pareil. La justice est submergée, elle manque de moyens, et donc on trie. On trie et on choisit les affaires qu'on va bien traiter, moins bien traiter, mal traiter, voire pas traiter du tout, ou repousser à plus tard.
Alors, ça dépend du domaine. Hein. C'est vrai qu'en matière civile, vous ne triez pas, puisque de toute façon, vous êtes saisi, donc vous devez répondre. Alors, on prend plus de temps peut-être pour certains contentieux que pour d'autres. Donc c'est une priorité qui certes est réalisée par les magistrats en accord avec les parties.
Mais là par exemple, pardon, au pénal dans la note qu'a rendue la chancellerie, le délai moyen c'est 14 mois.
En matière pénale, ce tri, il est inscrit dans la loi puisque le procureur de la République a l'opportunité des poursuites. Donc nécessairement, il fait un tri. Et puis il applique une politique pénale qui est décidé, et c'est très bien ainsi, par le garde des Sceaux. Et donc, il y a des priorités qui sont définies. Alors après, quand les priorités se succèdent à un rythme, et, on va dire effréné, mais extrêmement important, accéléré, ça devient très difficile de gérer toutes les priorités.
Vous voulez dire quand tout est prioritaire, il n'y a plus de priorité?
Alors, c'est ce qu'a dit une organisation professionnelle de magistrats, que je lui laisse cette responsabilité. Mais c'est vrai que nos collègues du parquet nous disent, ce qu'on traite maintenant... Eh bien, on ne traite pas en parallèle d'autres affaires qu'on traitait prioritairement avant.
Mais l'organisation syndicale à laquelle vous faites référence a dit qu'il y avait eu 64 circulaires adressées au parquet l'année dernière, 50 déjà depuis le début de l'année 2026, et qu'en fait, les circulaires, il y en a tellement qu'on n'arrive même plus à les appliquer en réalité.
Alors, ce sont des circulaires qui sont destinés donc aux magistrats du ministère public, que je ne suis pas. Donc j'ai un peu de mal...
Magistrats du parquet.
Voilà, j'ai un peu de mal à vous répondre, mais c'est vrai qu'on les voit. Et on voit qu'elles se succèdent et on voit à quel point nos collègues magistrats du parquet ont du mal à parfois y faire face, compte tenu de leurs multiples missions. Mais si vous voulez, quand je vous disais, est-ce qu'on ne peut pas changer un peu l'angle de notre regard, voilà. On dit, il faut que la justice traite ceci, ceci, cela, et avec les moyens qu'elle a. Mais est-ce qu'on ne peut pas adapter l'activité des juges aux moyens qu'ils ont. Parce que les moyens ne seront pas extensibles. On en a déjà eu, c'était un rattrapage, mais je doute que dans les circonstances actuelles, on en ait beaucoup plus.
La chancellerie dit d'ailleurs, je leur ai posé la question récemment, ils disent, de toute façon, il faut 4 ans pour former un juge, et puis je rappelle que le budget, ce n'est pas le ministre qui le décide, mais il est voté par le Parlement, donc, et les moyens, comme vous venez de dire, ne sont pas infinis. C'est vrai, donc ça veut dire qu'il faut adapter la justice aux moyens dont elle dispose, c'est pas le contraire qu'il faut faire?
Eh bien, il y a un minimum, si vous voulez, à apporter au juge comme moyen pour qu'il puisse rendre son office. Bon. Mais il y a un moment, si vous voulez, tout ne peut pas relever du juge. Bon. On a multiplié les contentieux qui relèvent du juge. Bon. Et on a essayé à un moment ou à un autre de ce qu'on appelle déjudiciariser, c'est-à-dire d'enlever au juge un certain nombre de contentieux qui ne relèvent pas de son office d'arbitre, en gros. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un juge ?
Un arbitre.
Oui, c'est quelqu'un qui est impartial, c'est un tiers impartial à qui on va confier sa cause. Bon. Donc il y a des domaines qui ne méritent pas d'aller devant le juge. Bon. Et on a même eu un rapport d'urgence qui avait été commandé par Didier Migaud, alors garde des Sceaux, sur la déjudiciarisation. J'avais été entendu par les membres de cette mission et je leur avais dit, écoutez, il faudrait créer une commission permanente de déjudiciarisation. C'est-à-dire, en fait, il faut préserver, sauvegarder, protéger l'office du juge pour qu'il soit bien réservé aux affaires qui le méritent.
Voilà encore un domaine qui rentrerait peut-être dans une grande réforme de la justice. Alors, on a évoqué ensemble ces affaires pénales, l'affaire Liana. Il y a une autre affaire qui a beaucoup fait causer et beaucoup porté les feux de l'actualité sur la justice, c'est l'affaire Le Pen. Là encore, la justice a été critiquée et s'est vu poser énormément de questions. C'est la deuxième partie de Quid Juris.
Quid Juris, Laurent Neumann reçoit Jean-Baptiste Parlos, le premier président de la Cour d'appel de Rennes.
Jean-Baptiste Parlos, il y a une autre affaire dont on a beaucoup parlé, c'est évidemment le procès en appel de Marine Le Pen. Elle a été condamnée par la Cour d'appel de Paris pour détournement de fonds publics à 3 ans de prison, dont un an ferme aménageable sous bracelet électronique, 45 mois d'inéligibilité. Et pourtant, elle est candidate à l'élection présidentielle. Alors, je ne vais surtout pas vous faire commenter une affaire individuelle, d'une certaine manière, mais quand même, cette décision, elle pose une question. Est-ce que c'est le rôle d'une cour d'appel d'arbitrer entre un principe, la liberté du suffrage, au détriment d'un autre principe, qui est l'exigence de probité, qui est pourtant inscrite dans la loi ?
Alors, bon, j'ai plusieurs éléments de réponse à vous donner. Alors d'abord, le premier président d'une cour d'appel, il est un magistrat de la Cour de cassation. La personne dont vous parlez a fait un recours en cassation. Donc vous comprendrez bien que je ne peux pas m'exprimer sur cette affaire, notamment sur son fondement, l'opportunité de telle ou telle peine. Mais bon, je peux quand même vous dire un certain nombre de choses. Si j'ai bien compris et lu l'arrêt de la cour d'appel, je relève que la décision de première instance avait entraîné un tsunami
de commentaires,
d'invectives.
Et d'invectives, vous avez raison.
Bon, là, encore une fois, il y a des états-majors politiques où on a dit que la justice avait été extrêmement intelligente.
Notamment autour des concernés.
Voilà, bon, moi, je vous dis ce que j'ai lu. Bon, alors, donc tout ça, si vous voulez, c'est relatif. Il faut quand même garder un petit peu de distance et garder son calme. Voilà. Ce qui est important de garder en toutes circonstances. Donc, si j'ai bien compris la décision de la Cour d'appel, guidée en cela par le Conseil constitutionnel, et vous voyez que l'état de droit, c'est pas uniquement la Cour d'appel, la Cour de cassation, c'est un ensemble.
La fameuse liberté de l'électeur.
C'est appliquer le principe de proportionnalité, c'est-à-dire, dans la mesure où vous déclarez quelqu'un inéligible, vous portez atteinte à un droit fondamental, qui est le droit de se présenter à une élection. Et quand c'est une élection présidentielle, ce droit, il a une force particulière.
Mais j'ai envie de vous répondre, je crois qu'il y a 16 000 peines d'inéligibilité décidées chaque année.
Je finis. Et le Conseil constitutionnel a guidé le magistrat judiciaire en disant, écoutez, si vous prononcez ces peines-là, vérifiez qu'elles n'est pas disproportionnée, que l'atteinte portée à cette liberté de se porter candidat, d'être candidat ou candidat, n'est pas disproportionné. C'est ce qu'a fait, ce que j'ai bien compris, mais si j'ai bien lu, la Cour d'appel. Après, la mesure avec laquelle elle a fait cela, ça la regarde, si je puis dire, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Mais si vous voulez, c'est ça, le principe juridique qui a guidé la Cour d'appel. Et c'est d'ailleurs un principe juridique qui nous guide dans d'autres domaines. Lorsque nous prenons une décision, nous devons vérifier que l'atteinte qu'elle porte à un principe fondamental n'est pas disproportionnée.
Alors, j'entends votre argumentaire, mais je note que vous avez commencé en disant, à juste titre, que la décision de première instance avait suscité un tsunami, c'est les mots que vous avez employés, de commentaires négatifs. Est-ce que ça ne veut pas dire que, d'une certaine manière, la Cour d'appel a cédé à cette pression politique, ou qu'au minimum, les juges de la Cour d'appel n'ont pas été sourds à ce débat public, etc. Je vais le dire autrement, avec des mots que certains doivent peut-être employer, je ne sais pas s'ils sont très juridiques, mais est-ce qu'elle n'a pas renoncé, d'une certaine manière, à jouer son rôle de contre-pouvoir, la justice, dans cette décision d'appel ?
Alors, la dernière phrase que vous dites est intéressante, parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis, et je voudrais vous en parler un petit peu, de cette question de l'inéligibilité, obstacle ou garant de la démocratie. C'est quand même un vrai problème, un vrai sujet. D'abord, ça montre qu'on peut faire appel et que parfois la Cour d'appel prend des décisions qui sont différentes.
C'est l'intérêt du double degré de juridiction.
L'intérêt du double degré de juridiction, alors que souvent on dit que la Cour d'appel ne fait qu'entériner, etc., etc. Bon, bref. Deuxièmement, il y a quand même eu des décisions du Conseil constitutionnel qui sont intervenues entre la première instance et
l'appel.
L'arrêt de la Cour d'appel. Et donc ça, c'est quand même très important. Non seulement les juges ne sont pas sourds, mais en plus, ils ne sont pas aveugles. Même si la justice doit être aveugle, c'est-à-dire impartiale,
Mais ma question portait sur le bruit de fond politique. Est-ce que vous dites, ils ont entendu ce qu'on a dit et, bah, d'une certaine manière, ils ont cédé. Certains disent, c'est un arrêt qui a voulu apaiser le débat politique.
Ils ont vu que le Conseil constitutionnel était vigilant sur la façon dont on devait appliquer cette peine d'inéligibilité au regard des libertés fondamentales. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose qui soit négatif. Après, la mesure avec laquelle la Cour d'appel le fait, moi, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est sa responsabilité, vraiment là au plan institutionnel, c'est sa responsabilité. Je ne fais pas de procès d'intention. Bon, est-ce que il a traversé dans la tête des juges un moment ce que vous dites ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas sonder les reins et les cœurs. Ce que je comprends de cette décision, c'est qu'ils ont appliqué un principe juridique de proportionnalité que nous devons nous appliquer dans toutes sortes de domaines. Alors après, il y a quand même une question moi qui me taraude. Est-ce que, parce que c'est comme ça que c'est présenté, l'inéligibilité est un obstacle à la démocratie.
Et votre réponse ?
La réponse est une forme de question. Est-ce qu'elle n'est pas aussi garante d'un certain débat démocratique ?
J'ai envie de vous répondre par les débats qui ont eu lieu, notamment à l'Assemblée nationale et dans tout l'espace politique, il y a une douzaine d'années, après l'affaire Cahuzac, débats qui ont conduit à la création d'un parquet national financier, à une augmentation des peines complémentaires et notamment la fameuse peine d'inéligibilité, à la création d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et je me souviens que dans le débat, un certain nombre de justiciables d'aujourd'hui, Marine Le Pen, notamment, réclamait l'inéligibilité à vie lorsque des responsables politiques s'étaient rendus coupables de faits délictueux d'atteinte à la probité.
Donc, c'est le débat politique.
C'était il y a 12 ans. Et là, aujourd'hui, visiblement, c'est plus tout à fait le même discours.
Peut-être que certains ont changé d'avis.
Parce qu'ils sont concernés ? Donc en gros, je vais le faire simple, mais ils demandaient de la rigueur quand ils n'étaient pas concernés, et quand cette rigueur s'applique à eux, tout à coup, ils voudraient moins de rigueur.
Il faut prendre un peu de profondeur dans le temps, si vous voulez. La justice est devenue sans concession, et je l'ai vécu directement comme magistrat opérationnel, en juridiction, est devenue sans concession à la suite d'une lente maturation qui s'est passée dans les années 90-2000, avec les fameuses affaires politico-judiciaires qui sont intervenues. Et au fur et à mesure de ces affaires, la justice a pris, si je puis dire, sa majorité, voilà, son indépendance. Bon, je ne dis pas que tout a été parfait. Je ne dis pas que l'excès a été évité dans telle ou telle affaire. Je dis simplement qu'il y a un mouvement où la justice est devenue sans concession vis-à-vis des responsables politiques.
Et comme tout mouvement de balancier, c'est en train de repartir dans l'autre sens ?
Un petit peu, avec en plus quelque chose qui, moi, m'interroge aussi, c'est le sceau de la partialité qu'on a voulu appliquer à des lois, des institutions qu'on a pourtant créées. Voilà. On a dit ça a été créé, mais parce que c'était un instrument politique contre tel ou tel parti.
Mais pardon, cette affaire Le Pen, est-ce qu'elle ne montre pas aussi les limites de la justice elle-même lorsqu'elle veut condamner pénalement des responsables politiques ? Vous avez forcément entendu dans le débat public ce paradoxe, qui de mon point de vue n'en est pas un, mais vous me direz votre avis, entre la légitimité qu'on tire de l'élection et la légitimité que tire un juge de l'application de la loi elle-même votée démocratiquement. Comme s'il y avait une confrontation entre les deux, mais c'est une confrontation fictive en réalité.
Eh bien écoutez, c'est une autre question que je pose. Est-ce que la démocratie repose uniquement sur l'élection ? Est-ce que la démocratie ne repose pas sur d'autres mécanisme aussi important
d'où ma question
que la séparation des pouvoirs.
Exactement, d'où ma question du départ. Pourquoi cette cour d'appel a décidé, mais vous m'avez en partie répondu, de privilégier la liberté de l'électeur à l'exigence de probité ?
Elle n'a pas privilégié ça, parce que si elle l'avait fait, je pense qu'elle n'aurait pas prononcé du tout de peine d'inéligibilité. Elle aurait été encore plus clémente. Non, je pense qu'elle l'a fait avec mesure. Après, on peut ne pas être d'accord avec la mesure utilisée par la Cour d'appel. On peut dire c'est pas assez, c'est trop. Bon, ça, c'est une appréciation, si je puis dire, comme on dit à la Cour de cassation, souveraine des juges du fond.
Alors, vous avez eu raison de dire qu'à l'issue de cet arrêt de la Cour d'appel, beaucoup de responsables politiques avaient salué la volonté d'apaisement de la Cour d'appel, l'apaisement du débat public. Mais en revanche, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu après la décision de première instance, coup d'État judiciaire, dictature des juges. Marine Le Pen avait même dit le système, entre guillemets, a sorti la bombe nucléaire. Je sais très bien qu'on a le droit de critiquer une décision de justice, mais on a vu à quel point dans des affaires récentes, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, à quel point les juges étaient eux-mêmes visés directement par ces invectives. Et là, on dépasse les bornes.
Oui, c'est-à-dire que la mise en cause personnelle n'est pas admissible. Bon, voilà, il y a beaucoup de collègues actuellement qui sont mis en cause personnellement.
Certains sont sous protection.
Sous protection. Certains sont mis en cause parce que simplement ils portent un nom étranger. Il y a des attaques xénophobes absolument scandaleuses. Ça, c'est absolument. C'était pas imaginable il y a quelques années. Bon, ça le devient. Et c'est, à mon avis, un rempart qui ne doit pas céder.
Des attaques aussi sur leur pseudo-appartenance politique ou syndicale.
Exactement.
On a vu un certain nombre de responsables politiques, et non des moindres, s'interroger sur le fait de savoir si les magistrats devaient continuer à pouvoir se syndiquer. Vous en pensez quoi?
Écoutez, moi, si on veut ça, il faut sortir de la protection de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut dire, on fait plus partie de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, au fil de la jurisprudence de la CEDH a garanti la possibilité pour les magistrats de se syndiquer. Alors, si vous voulez, il faut aller au bout du raisonnement. On sort complètement du système démocratique tel que l'a voulu l'Europe. Alors, pas par une lubie des juges, parce qu'en 1945, on est sorti d'un drame absolu, de crimes atroces, et que l'on a décidé de fixer au fronton de nos palais de justice des principes inaliénables. Si l'on veut revenir là-dessus, alors que les raisons qui les ont fondées sont des raisons objectives qu'il faudrait se garder d'oublier, eh bien, que ceux qui veulent y revenir, y reviennent.
Ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Baptiste Parlos. Merci d'avoir... D'abord, merci pour votre parler vrai, parce que vous n'avez esquivé aucune question. Coup de juriste, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'être venu nous voir pour répondre à toutes ces questions. Je vous rappelle que ce podcast Coup de juriste est disponible sur la plateforme de notre partenaire BFM, sur toutes les plateformes de streaming et bien sûr sur le site du Club des juristes. J'en profite quand même pour remercier chaleureusement Elsa Franz qui m'a accompagné ici pendant 3 ans et sans laquelle ce podcast n'existerait sans doute pas. Merci Elsa. Et moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre pour le 118e numéro, et oui, déjà 118e numéro de Quid Juris, toujours en audio et en vidéo. Bel été à toutes et à tous, et on se retrouve à la rentrée.